chers auditeurs.
J'aurais voulu pouvoir discuter avec vous du programme des candidats à la présidentielle à propos de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'aurais voulu pouvoir vous donner mon sentiment sur les conséquences qu'aurait telle ou telle proposition. J'aurais voulu pouvoir vous parler des 2,2% de PIB que la France choisit d'investir dans la recherche et le développement quand la Corée du Sud en investit 4. J'aurais voulu pouvoir vous parler du nombre de doctorants qui est en baisse ininterrompue depuis 2009, en grande raison en partie de l'effondrement des lettres et sciences humaines et sociales, dont le nombre de premières inscriptions en doctorat a chuté de 20% entre les rentrées 2009 et 2015. J'aurais voulu pouvoir vous parler du nombre d'universités laissées au bord de la faillite par l'État durant les quinquennats Hollande et Sarkozy, et dans lesquelles les conditions d'études se sont dramatiquement aggravées, avec des postes gelés, des secrétariats fermés, des TD supprimés. Les étudiants de l'ex-université Blaise Pascal verront de quoi je parle. J'aurais voulu pouvoir vous parler de la logique de compétitivité dans la recherche, dont l'instrument le plus pernicieux sont les IDEX, pour Initiative d'Excellence. Oui, les bureaucrates dopés aux indicateurs de performance adorent les acronymes qui claquent comme le vent qu'ils contiennent. IDEX inventé par Nicolas Sarkozy et poursuivi par François Hollande, dont la première fonction est d'imposer un regroupement anarchique des établissements, dans l'autonomie, en pensant additionner des scores au fameux classement de Shanghai des universités comme on empile des briques. J'aurais voulu pouvoir vous parler des conséquences désastreuses de cette logique de compétitivité qui, à défaut de pouvoir quantifier les résultats de la recherche ou distinguer la bonne recherche de la mauvaise, pousse les chercheurs à publier de plus en plus n'importe quoi. Les cas de fraude scientifique sont en explosion partout dans le monde depuis quelques années. Une logique de compétitivité qui accroît de façon radicale les inégalités entre territoires à la mode et territoires centrifugés de la recherche publique. J'aurais voulu pouvoir vous parler du gouffre abyssal entre ces affichages d'excellence et la réalité d'une grande part des bâtiments universitaires de centre-ville dans un état de délabrement honteux. Ayons une pensée pour l'UFR Lettres à Jargovia dans lequel il pleuvait cet hiver. Mais je ne pourrais pas, car toute possibilité d'un débat politique serein dans cette élection a été annihilée par la qualification du Front National. Et que peser tranquillement le pour et le contre des propositions respectives des deux candidats avec un pistolet pointé sur notre tempe serait proprement indécent. Car l'entourage de Marine Le Pen, cela reste un parti fondé par d'anciens collabos et Waffen-SS dont le symbole en forme de flamme tricolore provient en droite ligne du parti de Mussolini. Un parti qui a toujours défendu le retour de la peine de mort, le refus de l'avortement, le musellement des syndicats et des associations de défense des droits de l'homme, la remise en cause du droit de grève, la primauté du droit du sang et l'interdiction aux musulmans, et surtout aux musulmanes, de se montrer dans l'espace public. Un parti qui a toujours pratiqué la censure culturelle partout où il a été au pouvoir. Et ce qui me fait le plus mal, c'est bien que nous nous soyons fait voler la possibilité de débattre des orientations majeures, pour la recherche comme pour tant d'autres sujets, de notre pays. Car ce qu'il nous faut sauver maintenant, c'est la possibilité même d'avoir ce débat. Heureusement, je vous rappelle qu'il existe un troisième tour à l'élection présidentielle. Cela s'appelle les législatives. Et si la catastrophe est évitée dimanche, alors nous pourrons reparler de ce que nous souhaitons pour ce pays.
Chères auditrices, chers auditeurs, Barbara sur Radio Campus pour l'émission Quoi de Neuf Doc, l'émission de vulgarisation scientifique de l'association Doctovergne. Pour commencer cette émission, vous venez d'entendre le billet d'humeur de Quentin Rodriguez, doctorant en philosophie des sciences. Il a choisi de parler des élections puisque nous sommes entre les deux tours de la présidentielle. Je vous rappellerai juste que le droit de vote est un droit pour lequel il a fallu se battre et que même si vous n'êtes pas présent dimanche, vous avez encore la possibilité de faire une procuration, alors pensez-y. Alors même si les élections occupent beaucoup vos esprits, comme les nôtres d'ailleurs, ce ne sera pas le thème de cette émission. Nous, ce soir, nous allons parler de la mission Cassini autour de Saturne avec Lucie Poulet, doctorante en génie des procédés. Puis nous allons recevoir Arthur Bongrand, doctorant en physique, et Gabriel Pouège, doctorant en électronique, microélectronique, optique et laser, optoélectronique, micro-ondes. Bon, ça a été un tout petit peu dur à dire, mais j'ai réussi. Pour un 8 minutes en duo, animé par Alexandre Noblecourt, doctorant en génie des procédés. Ensuite, Clément Matona, doctorant en sciences de l'économie, réalisera la troisième partie de sa brève histoire du libéralisme économique. Alors, brève histoire, mais en trois parties quand même. Quatre, me fait-il signe. Donc une brève histoire en quatre parties, voyez, des fois il n'y a pas de paradoxe. Puis Ibtissam Hamouda, doctorante en sciences de gestion, terminera sa chronique consacrée au shopping. Et enfin, Ludivine Paris, doctorante en sciences de la vie, santé, agronomie et environnement, vous présentera l'agendoc. Elle vous fera donc le point sur tous les événements à ne pas rater ce mois-ci, et je vous assure que ça s'annonce plus que chargé. Pour partager cette émission avec nous, restez bien branchés sur le 93.3 et accrochez-vous car il est l'heure de décoller en direction de Saturne grâce à la chronique Space News.
Bonjour Barbara.
Bonjour.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission Cassini, qui a beaucoup fait parler d'elle la semaine dernière. Cette mission, nommée au départ Cassini-Huygens, est une mission visant à explorer la planète Saturne et ses lunes. Petit rappel, Saturne, c'est la géante gazeuse située entre Jupiter et Uranus, qui a des anneaux bien visibles. L'ensemble Cassini-Huygens s'est envolé en 1997 pour aller se mettre en orbite autour de Saturne en 2004. Huygens s'est ensuite séparé de Cassini pour aller se poser à la surface de la lune Titan. Pendant sa descente et après son atterrissage, Huygens a transmis des données sur l'atmosphère et la surface de Titan. Cassini, elle, a continué de tourner autour de Saturne et à fournir des données précieuses sur la planète et sur ses lunes.
Alors, si j'ai bien suivi, Cassini est arrivée sur Saturne en 2004. Cela fait donc 13 ans qu'elle lui tourne autour.
Oui, c'est ça. À l'origine, cette mission devait durer 4 ans seulement. Mais elle a été prolongée deux fois. D'abord jusqu'en 2010, puis jusqu'en 2017. Vous avez peut-être vu passer un cliché impressionnant de la Terre et de la Lune, notre Lune, vu depuis Saturne, où on voit un bout d'anneau au premier plan. Ben ça, c'est Cassini. Et cette mission, en plus de photographier et d'approfondir l'étude des lunes de Saturne et de ses anneaux, a également permis de découvrir 10 nouvelles lunes, ainsi que de nouveaux anneaux. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais parlé, enfin, il y a deux semaines, la fois dernière, je vous avais parlé d'Encelade, la lune de Saturne glacée, qui réunit des conditions propices à la vie. Les premières données détaillées qu'on a eues sur cette lune Encelade, laissant supposer qu'elle avait une atmosphère, eh bien, c'était grâce à Cassini. Et l'annonce du mois dernier concernant ces cryovolcans et l'hydrogène présent sur cette lune, c'est encore Cassini.
Oui, alors Cassini n'a pas chômé, et si j'ai bien suivi, il s'est passé encore quelque chose de nouveau la semaine dernière.
Oui, la semaine dernière, Cassini a plongé entre le premier anneau de Saturne et la partie la plus dense de l'atmosphère de la planète. Cela a commencé le mercredi 26 avril. Pendant 24 heures, il n'y a pas eu de communication avec la sonde. Mais Cassini a pu faire des prélèvements des poussières qui composent les anneaux en les traversant. Fin mai, il est prévu qu'elle survole l'anneau le plus proche de Saturne. Ce sera une phase difficile car elle aura plus de risques d'entrer en collision avec les particules qui composent cet anneau. Mais elle sera au plus près pour analyser sa composition. L'étude des anneaux de Saturne va en particulier permettre de déterminer leur masse, chose qui n'a toujours pas été faite. Cela permettra aussi de déterminer leur composition avec précision. Et plus généralement, cela nous permettra de mieux comprendre la formation des géantes gazeuses et leur évolution.
Et pour la suite ?
Mais ensuite, il est prévu que Cassini plonge comme ça 22 fois entre Saturne et son premier anneau. C'est vraiment la première fois qu'une sonde va aussi proche de Saturne et explore cette région. Et puis, le 15 septembre 2017, Cassini plongera dans l'atmosphère de Saturne. En essayant de garder son antenne dans la direction de la Terre, elle nous transmettra ses dernières données, celles de la composition atmosphérique de la planète, avant de se désintégrer sous l'effet des forces de friction intenses et de sa vitesse.
C'est triste.
Ouais, c'est triste. Mais avant de se désintégrer, Cassini nous livrera de précieuses informations sur ce qui se trouve sous les nuages de Saturne, et pourra prendre des photos des aurores boréales des pôles de la planète. Et ce n'est pas tout. Les analyses magnétiques et gravitationnelles qu'elle fera nous permettront d'en savoir plus sur la structure interne de Saturne. La taille de son noyau rocheux, par exemple. Et à quelle vitesse tourne sa coquille d'hydrogène métallique autour de ce noyau. Jusqu'à son dernier instant, Cassini fera de la science et nous enverra des données. La raison pour laquelle l'heure de la fin de la mission a sonné est que Cassini a consommé presque tout son carburant. Et elle pourrait donc s'écraser à un endroit peu indiqué, sans qu'on puisse le contrôler. Cela pourrait être dramatique que cette sonde s'écrase à la surface d'Encelade, par exemple. En effet, elle pourrait la contaminer. Et ça peut avoir deux conséquences majeures. Premièrement, détruire une forme de vie éventuelle qui s'y trouverait. Et deuxièmement, amener de la vie terrestre sur Encelade, que l'on redécouvrirait dans quelques années, pensant avoir enfin découvert de la vie ailleurs dans le système solaire. Donc quand les scientifiques ont découvert un océan sous la surface glacée d'Encelade, ils ont pris la décision d'arrêter la mission avant une dernière manœuvre appelée avec une dernière manœuvre appelée Grand Final, qui va profiter des dernières réserves de carburant de la sonde pour la faire délibérément entrer en collision avec Saturne. Donc Cassini ne pourra jamais, comme le groupe de police, chanter Walking on the Moon en se posant sur Encelade.
Merci Lucie. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur les ondes de Radio Campus pour l'émission Quad 9 Doc. Et pour parler science, nous recevons maintenant Arthur Bongrand et Gabriel Pouèche pour le 8 minutes avec.
Bonjour Arthur. Bonjour Gabriel, donc aujourd'hui on vous reçoit tous les deux pour parler de votre sujet de thèse, donc qui sont en lien tous les deux, donc je vais vous laisser les présenter et nous expliquer un peu ce que vous faites.
Alors je vais commencer peut-être par la partie la plus appliquée. Donc moi j'ai une thèse sur le contrôle balistique en hadronthérapie. Alors qu'est-ce que la hadronthérapie ? C'est une technique de traitement des cancers en fait. D'habitude, ce que les gens ont l'habitude de voir, c'est ce qu'on appelle des gamma caméras, c'est-à-dire on envoie des signaux lumineux très intenses qui vont aller dans la direction de la tumeur, qui vont aller déposer leur énergie sur ce qu'on appelle la tumeur, enfin le cancer. Le cancer, en fait, est juste une prolifération de cellules qui font que se multiplier et qui du coup n'assurent plus leur fonction. La hadronthérapie, l'idée c'est de faire la même chose, mais cette fois-ci en déposant de manière très localisée ce dépôt d'énergie et donc de ne pas toucher les tissus sains autour. Donc ça a un énorme impact, donc moins d'effets secondaires et le patient peut aussi se rétablir un peu plus rapidement. Voilà, donc le problème de ça, c'est que comme ça dépose de manière très localisée, si on fait ne serait-ce que la moindre erreur sur les tissus sains, et ben là on attaque de plus gros dégâts. Donc l'idée, c'est de concevoir un appareil qui suive en temps réel la façon dont est effectué le traitement, la façon dont est lancé... alors nous, on lance pas des... Pardon, j'ai pas dit sur le hadron, on lance pas des... gamma, mais nous, la lumière, nous, on lance des protons. C'est des protons qui, c'est eux qui ont cette particularité de, des ions lourds, qui ont cette particularité de déposer l'énergie en un endroit. Et donc, on va, moi, je construis un appareil qui va essayer de, suivre ces protons en temps réel. Et, parce que ces protons, en passant à travers le corps humain, ils vont taper dans les molécules d'oxygène et de carbone et ils vont émettre une lumière. Cette lumière qu'on va récupérer avec un instrument qu'on appelle le DPGA, un détecteur pixelisé de grande acceptance, et qui va nous permettre de suivre en temps réel. Donc pour cela, on a besoin d'une électronique rapide, quelque chose qui va pouvoir nous permettre d'extraire les données et de les analyser. Donc, en cas de déviation trop importante, ou en cas de, qu'on rate la cible, eh ben on arrête le traitement et on recalcule. D'accord. Donc là, pour la partie acquisition, je vais laisser plus Gabriel parler.
Donc, bonsoir. Donc, moi, je vais vous parler aussi de mon sujet de thèse, donc, qui s'inscrit tout à fait dans le contexte aussi de ce travail de recherche en hadronthérapie. Donc, un petit rappel de contexte, on est tous les deux au laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand. Donc c'est un laboratoire qui est rattaché à l'Institut National de Physique des Particules et de Physique Nucléaire. Et donc on travaille principalement pour les expériences du CERN, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc l'idée c'est d'accélérer des particules le plus rapidement possible et de les collisionner pour mieux comprendre la matière. Donc toutes ces expériences, donc pour le CERN ou pour la hadronthérapie, nécessite la conception d'instruments dédiés pour ces expériences, pour analyser, extraire les données. Donc à chaque fois, on a beaucoup de données qui sont produites. Et donc dans mon cas, pour ce travail de recherche, l'idée c'est de concevoir le circuit qui aura pour rôle après de transformer les signaux analogiques qui viennent de chaque pixel du DPGA, de l'instrument que vous a parlé Arthur, et de transformer ces signaux analogiques, donc qui ont une amplitude réelle, hein, et de les numériser ensuite en signaux numériques pour être traités après soit par un système de traitement temps réel, soit sur ordinateur. Et en fait, les contraintes de mon circuit, c'est justement la résolution qui doit atteindre 8 bits. Donc, c'est, pour ceux qui connaissent un petit peu les fichiers audio et la compression, 8 bits, ça peut paraître une faible résolution. L'autre contrainte, de l'autre côté, c'est qu'il échantillonne en temps réel à 2 gigas sample, 2 gigas échantillons. Donc, sachant que l'audio, c'est jusqu'à 20 kHz, on est 100 000 fois plus, hein. 100 000 fois au-dessus de la fréquence auditive qu'on peut entendre. Mais pour la lumière, c'est indispensable, en fait.
D'accord. Donc c'est un procédé assez complexe, mais combien de temps ça met à développer ce genre de procédé? Parce que là, il y a toute la phase de conception, d'optimisation, et après, il y a des essais cliniques derrière, je suppose. Est-ce que vous avez un ordre d'idée, peut-être?
Peut-être juste avant, une petite question pour résumer, parce que c'est quand même ultra technique. Moi, je pense que ce serait bien de faire peut-être... Si vous me dites si je me trompe, hein, mais mm-hmm. Si on résume vos deux sujets de thèse, le but, c'est de trouver une manière de vaincre la maladie plus précise et donc plus efficace. Toi, tu regardes un peu la théorie et toi, tu construis l'outil qui permettrait de le faire.
Non, c'est
l'inverse.
Enfin, on est tous la construction. Ouais, c'est vraiment le contrôle du traitement. Le traitement existe. Et
d'accord.
Nous, c'est vraiment de contrôler, de s'assurer.
D'accord, c'est de bien viser les cellules malades, ouais. Et pas les cellules saines, et vous construisez la machine qui permettra de le faire.
De le contrôler en temps réel.
D'accord.
Comme il expliquait en fait.
Non, mais du coup ma question était
oui.
pas bête.
Non, mais comme il expliquait en fait, c'est qu'actuellement on ne peut que bombarder la tumeur et arrêter le faisceau et analyser ce qui s'est passé et ensuite rediriger le faisceau. Et ça demande. À chaque fois, enfin.
Disons qu'en fait, pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, quand on cible une tumeur, on prend tout autour 3,5 mm de marge. Voilà. Donc ça peut paraître pas grand chose, mais si pour des tumeurs dans le cerveau, c'est énorme. L'idée avec ce suivi, ça pourrait permettre de réduire ses marges à 1 mm.
D'accord.
En gros, l'idée, le positionnement du patient. Voilà.
Donc abîmer moins de cellules saines possible et voilà. Vraiment viser que les cellules malades.
Aller chercher des cellules qui sont très proches des organes vitaux, comme par exemple près du cœur ou à l'intérieur du cerveau, encore plus profondément.
Et pour ça, il faut de l'électronique rapide. Et ça, c'est mon boulot.
Voilà. Ok. Je vous laisse reprendre, je vous embête pas plus.
Ouais, je vous en prie.
Donc, comme je vous demandais, ouais, combien de temps ça met à développer un procédé comme ça ? Est-ce que vous avez une idée ?
Alors, ça se compte en plusieurs dizaines d'années. Et il y a autre chose aussi, c'est que donc déjà on vit avec des financements, donc déjà il faut trouver un certain nombre de mécaniques de financement. Oui. Et ensuite, pour l'aspect clinique, il y a en Europe une éthique qui nous empêche d'aller poser notre instrument sur un patient et de regarder ce qui se passe. Il faut passer par tout un processus d'autorisation, de tests précliniques sur des animaux, puis ainsi de suite. Ce qui fait que ça peut tout de suite prendre 20, 30 ans.
D'accord. Donc, qu'est-ce que vous envisagez de faire, vous, justement, après votre thèse, après avoir fini de bosser là-dessus ?
C'est une grande question. Bah, idéalement, ça serait quand même de pouvoir continuer la recherche. Après, c'est pas toujours évident d'avoir un poste. Dans l'industrie, il y a un équivalent qui s'appelle chef de projet. C'est une opportunité comme une autre.
Ouais, ça serait plutôt chez General Electric. Une société comme General Electric dans le privé, on a vite fait le tour. Hein.
D'accord.
Il y a plein d'opportunités qui existent. Ce qui m'intéresse vraiment, ce que me permet la thèse, c'est vraiment de s'ouvrir à toutes les technologies, à pouvoir, à partir de rien, créer quelque chose ou même améliorer sensiblement les choses. Quoi.
D'accord.
Du coup, moi, j'ai une autre question, mais vous avez dit que c'était un travail du coup, de plusieurs dizaines d'années. Donc, ça veut dire que la recherche sur ce que vous faites a commencé depuis longtemps.
Oui.
Okay, et qu'il y a du monde après pour reprendre la suite, parce que vous n'aurez peut-être pas forcément les résultats parfaits à la fin de vos thèses.
Là où on en est sur notre instrument, c'est ce qu'on appelle un détectif d'un prototype de type 1, enfin de phase 1. Donc là, on est sur ce qu'on appelle un démonstrateur. Donc on va montrer que le processus marche, le processus physique, tout ça, c'est viable, avant de passer sur le petit animal, par exemple. Donc là, on vient d'installer notre détecteur sur une ligne clinique à Nice, au centre de protonthérapie Antoine Lacassagne, qui est maintenant l'Institut méditerranéen de protonthérapie. Donc la radonthérapie ou même la protonthérapie, c'est quelque chose qui appelait à se développer. C'est quelque chose qui n'existait pas, enfin qui n'était pas très développé il y a à peine encore 20 ans. Donc c'est vraiment une solution pour aller chercher des cancers qu'aujourd'hui on ne peut pas soigner ou qu'on soigne difficilement. Et en particulier aussi pour une autre population qui sont comme les enfants, parce que la radiothérapie conventionnelle, ou même le traitement conventionnel, induit des effets secondaires de l'ordre de la dizaine ou de la vingtaine d'années, qui sont, enfin, c'est pas que c'est acceptable, mais qui sont pas exclusivement néfastes pour des personnes plus âgées. En revanche, pour un enfant, c'est quand même très compliqué.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à faire cette thèse ? Enfin, quel est votre parcours un peu pour expliquer aux gens comment vous êtes arrivé là ?
Alors, du coup, j'ai fait toute mon université à Nantes, dans le parcours de physique, et on a eu l'occasion de faire des stages justement. Donc, je travaillais aussi, alors cette fois-ci, je travaillais sur la partie diagnostic, donc une machine qui permet de justement diagnostiquer le cancer, qui a un fonctionnement un peu similaire. Et c'est tout cet aspect recherche, passer ses journées à réfléchir de comment faire. Il n'y a pas de recette, on est là, on a un problème et on essaye de le résoudre. C'est même des fois plus simple que ça, c'est des problèmes qui n'existent pas, on se crée des problèmes et ensuite on essaye de les résoudre.
C'est joliment résumé.
C'est la thèse, non mais... Donc en fait, la thèse, c'est juste le prolongement de mes stages, mais cette fois-ci, sur 3 ans.
D'accord. Bon, bah super, merci pour toutes ces infos et...
Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Eu só quero que Deus me ajude, o menino muito mais também.
pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa, e o menino não é ninguém.
Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui.
Há 6 mil anos o homem vive feliz fazendo guerras e asneiras. Há 6 mil anos Deus perde tempo fazendo flores e estrelas.
Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui.
Eu sou um homem sincero porque nasci, cresci e vivo livre. Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre.
Olha o menino, ui, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, ui, olha o menino, ui, ui, ui.
Eu só quero que Deus me ajude, o menino muito mais também. Pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa, o menino não é ninguém.
Olha o menino, ui, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, ui, olha o menino, ui, ui, ui.
Há 6 mil anos o homem vive feliz fazendo guerras e asneiras. Há 6 mil anos Deus perde tempo fazendo flores e estrelas.
Olha o menino, ui, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui.
Eu sou um homem sincero porque nasci, cresci e vivo livre. Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre.
Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui.
Il est actuellement 18h27, vous êtes sur les ondes du 93.3. Vous venez d'écouter un titre que je vais sûrement hyper mal prononcer, Holao Menerenino de Gaetano Veloro. Alors j'ai un superbe accent étranger, hein, on me le pardonnera. Et ce soir, après Arthur et Gabriel, c'est Clément qui vient partager ses recherches avec nous. Il aborde ce soir la troisième partie de sa brève histoire du libéralisme économique, qui en a donc 4.
Avez-vous lu ?
Il me fait la grimace, il n'y a pas 4 parties ?
Si, 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 bon. Bonsoir Barbara, bonsoir à toutes et à tous. Oui, bon, partager mes recherches, là c'est pas en lien direct avec mes recherches, mais bon, en tout cas c'est des réflexions qui sont liées à l'économie, je suis d'accord. Bon, alors, depuis maintenant 2 ans, non je rigole, depuis 2 mois du coup, je vous propose une brève histoire du libéralisme économique, qui sera peut-être en 4 parties. Et jusqu'à présent, nous sommes intéressés à quoi ? Donc, premièrement à la définition du concept de libéralisme, et tout particulièrement de libéralisme économique. Je vous rappelle brièvement que selon ces théoriciens, à partir du moment où un certain nombre de droits et libertés et libertés fondamentales sont assurées, telles que le droit de propriété, la libre concurrence et la liberté d'entreprendre, il suffit à chacun de poursuivre son intérêt personnel pour que le système économique fonctionne du mieux possible. Le libéralisme économique, donc, se fonde sur la conviction d'un ordre économique naturel et spontané, indépendant des autres sphères de la vie sociale. Je sens que ça va être dur aujourd'hui. Toutefois, comme nous avons pu le voir la dernière fois, la réflexion économique fut pendant très longtemps assujettie à des considérations d'ordre moral et politique. Et alors, pour que l'économie s'émancipe pleinement, il a fallu que celle-ci se dote d'une cohérence interne. Et c'est pourquoi l'objectif de ma chronique de jour est de vous présenter brièvement les pensées essentielles qui, de la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, je vous avais dit que ça serait difficile, ont permis de faire de l'économie un ordre naturel et spontané, indépendant de la morale et de la politique. Commençons par un premier penseur phare du libéralisme économique qui est John Locke, philosophe anglais du XVIIe siècle qui, dans ses deux traités du gouvernement civil, a mis l'accent sur la notion de propriété. Et l'auteur va montrer que les actions des individus relèvent intégralement de leur volonté propre et ne doivent pas être assujetties à un ordre extérieur, politique ou religieux, par exemple. Selon Locke, donc, Dieu a créé l'homme pour que ce dernier s'approprie quoi ? Les choses de ce monde. Donc, à l'état de nature, état antérieur à l'apparition des institutions politiques, l'homme étant libre de son action, les choses de ce monde, par son travail, deviennent donc sa propriété. Donc, en définitive, les individus sont libres de s'approprier ce qui résulte du fruit de leur travail. Et dans l'état de nature, la propriété privée d'un individu sur une chose provient donc du travail effectué en vue de l'obtenir. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on voit, première étape de notre pensée, c'est que dans la pensée de Locke, l'ordre économique préexiste à l'ordre politique et ce dernier n'étant que la conséquence du premier. Après Locke, sacralisant donc le droit de propriété et l'antériorité de la sphère économique sur le politique, passons à François Quesnay et les physiocrates. Juste pour rappel, la physiocratie vient du grec physis, nature et kratos, pouvoir, donc en gros, en résumé, le gouvernement de la nature. Et la physiocratie est un courant de pensée économique et politique du XVIIIe siècle, principalement donc français, et qui se fonde sur le développement économique, principalement de l'agriculture, et prône la liberté du commerce et de l'industrie. Son penseur phare, François Quesnay, médecin et économiste français, est le premier dans son ouvrage Tableau économique à concevoir l'économie comme un tout cohérent disposant de ses propres relations logiques, donc de ses propres lois. Ici, l'économie, à l'image de la nature, obéit à ses propres déterminismes. Il convient donc de laisser agir pleinement la sphère économique pour permettre un fonctionnement harmonieux de celle-ci. Je vais y arriver. Pour Quesnay, et à la différence du mercantilisme, l'État ne doit donc pas intervenir dans le fonctionnement de l'économie au risque de perturber sa propre dynamique interne. Donc, qu'est-ce que l'on voit avec les physiocrates ? C'est que cette fois-ci, la conception de l'économie est vue donc comme une composante de la réalité sociale disposant de ses propres règles, de ses propres lois. Troisième étape et avant-dernière étape, celle de Bernard de Mandeville et sa fameuse fable des abeilles. Juste pour rappel, Bernard de Mandeville est un écrivain hollandais et donc qui a écrit en 1705 cette fameuse fable qui s'appelle la fable des abeilles. Pour l'auteur, donc Bernard de Mandeville, la sphère économique est non seulement dotée de sa propre morale, mais celle-ci, et c'est le plus important, est la seule à être en accord véritable avec la nature humaine des hommes. Il s'agit en effet du seul domaine des activités humaines où les passions réprimées par la morale traditionnelle, que sont l'égoïsme, l'orgueil, le matérialisme par exemple, ont des effets positifs pour l'ensemble de la société. Ce n'est donc pas en cherchant à agir dans le sens de l'intérêt commun que les individus favorisent le bien public, mais au contraire, c'est en agissant dans leurs propres intérêts que ceci concourt au bien commun. Donc pour Mandeville, la société ne constitue qu'un simple vecteur des différentes motivations égoïstes des individus qui, par le jeu d'une harmonie naturelle des intérêts, qui deviendra la théorie de la main invisible chez Adam Smith, va aboutir au bien-être collectif. Les individus ne forment donc une société que dans la mesure où celle-ci permet la satisfaction de leurs besoins matériels. Donc moralité, chez Mandeville, étape supplémentaire dans l'émancipation de l'économie vis-à-vis du politique et de la morale, Mandeville sacre véritablement l'indépendance des questions économiques vis-à-vis de la morale. Et pour terminer, Adam Smith, le plus connu certainement de tous les penseurs du libéralisme économique du XVIIIe siècle, donc qui est un philosophe et économiste donc écossais du XVIIIe et qui est surtout connu pour la rédaction de 12 ouvrages, très célèbre, le premier, La théorie des sentiments moraux, et le deuxième, La recherche sur les causes, sur la nature et les causes de la richesse de la nation. Tout l'intérêt d'Adam Smith, c'est que finalement, il va condenser dans sa pensée économique l'ensemble des héritages précédents que je vous ai mentionnés, en vue d'aboutir à une réflexion économique affranchie de toute considération d'ordre moral ou politique. En effet, dans sa pensée, on peut discerner la triple influence suivante, celle de Locke, dans l'importance accordée à la valeur travail, pour fonder la valeur des choses, celle de François Quesnay, des physiocrates, dans sa conception d'un ordre économique disposant de ses propres lois, et celle de Mandeville, dans la conception de l'ordre social spécifique, dans un ordre social régi par une sorte d'harmonie naturelle des intérêts individuels. Donc, cette émancipation progressive de la pensée économique des autres dimensions de la réalité sociale, ne sera pas sans conséquences historiques, dans la mesure où le 19e siècle verra apparaître un système économique bien spécifique à l'histoire du capitalisme des sociétés occidentales, à savoir l'économie de marché, qui, en lien direct avec les pensées que nous avons pu voir aujourd'hui, posant les bases du libéralisme économique, se fonde sur l'idée d'une autorégulation de l'économie. Et c'est précisément ce que l'on verra dans la quatrième partie de notre brève, très brève histoire du libéralisme économique. Dans la troisième partie était assez difficile aujourd'hui. Et je vous laisse, oui, très rapidement, sur un groupe de métal français, cette fois-ci, qui s'appelle Heads et qui, une fois n'est pas coutume, a une demoiselle au chant. Voilà.
Eh ben, il fallait bien ça pour vous réveiller après plus de 6 minutes d'économie. Bon, je ne sais pas si la suite va être plus calme, puisque je laisse l'antenne à Iptisem et sa chronique Pourquoi, souvent décalée.
Mais pourquoi ?
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 Pourquoi pas ?
Ayant le souci du bien faire, je poursuis sur les shopaholics de ma dernière chronique. Comme moi, qui ne porte pas tout ce qu'ils achètent, tout ce qu'elles achètent, je tiens à préciser qu'il y a une explication purement psychologique à ces modes de consommation. Il y a 4 facteurs qui sont généralement à l'origine du phénomène. Donc on reprend les propos de Kitiaro, qui nous dit qu'il y a d'abord ceux qui achètent en occultant volontairement un défaut, L'exemple classique, vous adorez cette paire de chaussures, en plus elle est en solde, elle vous fait mal, mais vous l'achetez quand même. Le processus psychologique, c'est un biais cognitif très courant qui consiste à ignorer une information dont vous êtes conscient, mais qui ne colle pas avec vos envies. Deuxième cause la plus fréquente, vous achetez un produit qui traduit une fausse image que vous avez de vous-même, qui correspond à ce que vous aimeriez être plutôt qu'à ce que vous êtes vraiment, parce que le shopping stimule notre imagination. C'est ce que souligne l'auteur. Par exemple, quand vous achetez du 36 en prévision d'une éventuelle perte de poids. Oui, moi, ça m'arrive souvent. Ou quand votre choix se porte sur un vêtement qui ne colle pas avec votre style de vie. Dans ce cas, comme dans le premier, on est en présence de personnes qui ne voient pas la réalité comme elle est. Kitiaro poursuit avec un troisième type d'explication. Ceux qui aiment tellement un vêtement qu'ils ne portent pas pour ne pas l'abîmer. On parle alors d'aversion à la perte, ajoutant que c'est particulièrement courant chez des personnes qui ont connu le manque ou qui ont subi des pertes durant leur enfance. Bon, entre la pathologie de la shopaholic et l'achat pour suivre la mode, la copine ou la personne qu'on voudrait être, il y a quand même un très grand pas. D'ailleurs, ici, encore une fois, la psychologie cognitive et ou sociale décrit bien les processus d'homogénéisation qui permettent la construction du système de représentation de chacun en tant qu'être social. À force d'interaction, nous construisons des représentations communes qui nous permettent par exemple de distinguer le déviant du commun, permettant donc d'avoir un système d'interprétation ou de représentation collective et puis des représentations communes. C'est de là d'ailleurs qu'est née la culture ou ce qu'on appelle à un niveau plus macroéconomique la proximité institutionnelle.
Mais moi aussi, je suis Front National depuis longtemps là maintenant.
Moi depuis 81, madame.
Et vous êtes plus Marine ou plus Jean-Marie?
Je suis Front National.
Mais non, madame. Mais coupez la télé.
La France, bah.
Mais c'est
France,
quoi
c'est
ça?
Mais bien sûr qu'on va gagner.
Ah, oui, oui, les gros dans
comment
les...
ça, on
bien
va gagner?
Bien sûr, on va gagner.
Douce France.
Marine va nous sauver, Marine.
À votre avis, vous voyez pas le déclin de la France?
Marine, elle est là pour nous, pas pour elle.
Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais, cette dame, pour qu'on lui en veuille autant?
Bonne question. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, voilà là, une subtile suggestion pour me faire parler des élections présidentielles. Ben oui, on va en parler, tiens. Pourquoi est-ce que je voterais pas pour Marine Le Pen? Mais comment pourrais-je? Je suis d'origine tunisienne, j'ai un bac plus 8, j'ai étudié et vécu dans plusieurs pays en Europe et hors Europe. En plus, mes croyances religieuses sont sa pierre de lance. Mais pourquoi je ne voterai pas pour Marine Le Pen? Ses thèmes de campagne se résument à des anathèmes. Avec son discours fantasmagorique et ses solutions fantomatiques, elle dégrade notre pays plus sûrement qu'une agence de notation. Avec Marine Le Pen, c'est pas le AAA, c'est la triple N. N de l'étranger, de l'euro, de l'islam, ça fait déjà 3 bonnes raisons de lui dire non. Pourquoi je ne voterai jamais Le Pen? C'est la politique du pire et de la peur. Ce qui est frappant, c'est qu'elle conteste toutes les statistiques officielles, sauf quand elles sont alarmantes. Pour elle, il y a beaucoup plus de chômeurs qu'on ne le dit, plus d'immigrés, plus de fraude fiscale, plus de viande halal. Mais si la police dit que les cambriolages augmentent, elle en prend acte, comme pour la proportion de pauvres ou de salariés précaires. C'est une façon de ne voir la réalité qu'en termes négatifs. Et pourquoi je ne voterai pas Le Pen? Parce que le Front National, c'est une longue tradition idéologique de l'extrême droite, celle du défaitisme d'ailleurs, et ça n'a jamais favorisé le sursaut, moi qui ai de nature optimiste. Pourquoi je ne voterai pas Marine Le Pen? C'est vrai qu'ils sont ouverts d'esprit dans ce parti, parce qu'en plus d'accueillir un ancien nazi dans ses rangs, il s'est très largement inspiré du MSI, vous savez, le parti fasciste italien. Parce que, au cas où, hein, la reprise du logo, la flamme tricolore, c'est à l'origine le logo de ce parti. Alors oui, ça m'empêche largement d'y adhérer. Pourquoi je ne voterai pas Marine? On résume donc, un mouvement raciste et conservateur, nous le savions, mais aussi fondé par un ancien nazi, avec une grande proximité avec le fascisme italien, et dont la com tourne autour du négationnisme. Alors pourquoi je ne voterai pas Marine Le Pen encore? Les petites phrases grossières et xénophobes qui ont construit la carrière politique de son père, elle s'est évertuée à déplacer le problème, hein, ce problème hier qui était les juifs, désormais c'est les musulmans, augmenter petit à petit le ressentiment de la population à l'égard des musulmans français, je le précise. Sur le fond, la politique de rassemblement du Front National reste la même, unir les gens contre des minorités défavorisées. Pourquoi je ne voterai pas Marine Le Pen ? Parce que j'ai peur, mais j'ai pas peur comme Marine. J'ai peur que nos représentations sociales deviennent celles du Front National, que notre culture basée sur les principes démocratiques et les droits de l'homme se bafoue au vu d'idées conservatrices, enfermées et aux messages haineux. La peur de toutes les minorités, par exemple. Moment de douceur et de sagesse. Bah oui, je vais comme Marine Le Pen appuyer sur des choses très négatives. Moi, je voterai pas Marine Le Pen, mais pas dans cette vision négative. Moi, je ne voterai pas Marine Le Pen parce qu'on vit dans un des plus beaux pays du monde. On est tous beaux. Regardons-nous, la vie est belle. Alors vous êtes allé voter ou peut-être pas parce que vous avez trouvé la campagne présidentielle pas à la hauteur ou honteuse parce qu'elle n'a pas dit toutes les vérités qu'on attend, ni adhésion ni vote utile. Juste votons. Votons pour le candidat le moins pire, pour que notre pays continue à être le pays le moins pire. La France n'est pas parfaite. Moi, je sais pour qui je ne voterai pas et pour qui je ne voterai jamais. La question ne se pose même pas. La démocratie est un luxe, elle est un luxe que des milliers de gens rêvent d'avoir. A-t-on le droit de mettre en danger des décennies de progrès, un héritage riche et enrichi ? Au-delà du fait que je m'appelle Iptissem et que mes racines ne sont pas made in France, moi je suis une pure made in France. Et je soulignerai pas d'où je viens parce que je viens d'ici. À bon entendeur.
Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant, se met fidèle. Est-elle fidèle ? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je paye mes impôts, moi. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. J't'invite à manger un bon muffin chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français. Chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée.
C'était Je suis chez moi de Black M, un titre choisi par Eptissem qui est donc passé des chaussures aux élections. Peut-être qu'il y avait une couleur de fer de lance derrière. Alors en tout cas, si le deuxième tour des élections est l'un des événements majeurs de ce mois de mai, heureusement, il n'y a pas que ça. Et c'est ce que va vous prouver Ludivine grâce à l'agendoc.
l'agenda du doctorant, c'est l'agendoc.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors sans plus tarder, je commence cet agendoc avec un événement qui aura lieu dès demain. L'école supérieure de commerce de Clermont organise son TEDx. Venez rencontrer 7 speakers qui partageront avec vous leurs idées, à savoir des idées qui valent la peine d'être partagées. Vous retrouverez notamment Barbara et un ancien chroniqueur de l'émission, Nicolas Duraca. Rendez-vous donc demain. La soirée durera de 18h15 à 22h au 4 boulevard Trudaine. Profitez notamment d'un moment d'échange avec les intervenants à l'entracte autour d'un repas convivial. Pensez à réserver vos places sur le site tedxescclermont.fr. Il y a 6 mois, je vous le présentais lors de la soirée d'inauguration. Ce mois-ci, il arrive, tout nouveau, tout beau, le festival Pint of Science. Du 15 au 17 mai, 3 bars clermontois, nous accueillerons pour 3 soirs de 19h à 22h. Des présentations, des animations, des discussions et même des révélations. Et bien sûr, et là je casse toute ma rime, de la bière sont au programme.
De la pression.
Ah mais bien sûr. Ah mais suis-je bête.
Bah, Lulu.
Pour une fois, c'est pas moi qui ai un fou rire fort de ma chronique.
Alors.
Et ça y est, on aura réussi pour une fois que Lucie n'a pas rigolé, on perd le divine.
Alors, donc, Aubin-Lavilliers, nous parlerons de la planète Terre.
Nous allons. Alors, donc, Aubin-Lavilliers, nous parlerons de la planète Terre. Il me semble qu'au Régent, nous parlerons du corps et de l'esprit.
De l'esprit, voilà. Et à la Hacienda, pardon, nous partirons à la découverte de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand avec le thème des atomes aux galaxies. Donc l'entrée est à 2€ par soir afin de pérenniser le festival en France et surtout d'assurer toute la logistique et la com au niveau national. Retrouvez le programme et la billetterie directement sur le site de Pint of Science ou via le site de Doctovergne. Les journées de l'école doctorale, sciences de la vie, de la santé, de l'agronomie et de l'environnement, rien que ça, se dérouleront dans l'amphi Michel de l'Hôpital à l'école de droit les 18 et 19 mai. Ces journées sont ouvertes au grand public avec des présentations orales et des sessions posters. La conférence de clôture, le 19 mai à 14h30, sera tenue par le docteur Axel Kahn sur la responsabilité et le pouvoir humain sur les génomes. Pour finir avec les événements de diffusion scientifique, le Puy de la Recherche, donc un colloque transdisciplinaire dont l'objectif est d'aborder un thème d'actualité à travers différentes disciplines, depuis la biologie à l'économie, en passant par la littérature et la philosophie. L'idée est de confronter les points de vue et d'échanger autour de cela. Cette année, le colloque s'intéressera à l'étranger, cet inconnu. Il se déroulera du 6 au 8 juin, donc dans l'amphi Trudaine, à l'école de droit. Et bien sûr, c'est ouvert au grand public. Le mois dernier, je vous annonçais la demi-finale. Alors ce mois-ci, je vous annonce la finale. Après avoir pris sa revanche sur le RCT et s'être imposé face au Leinster, l'ASM rencontre les Saracens lors de la finale de la H-Cup. Celle-ci se déroule à Édimbourg le 13 mai prochain. Et à tous les supporters, je vous donne rendez-vous sur la place de Jode, où sera notamment placé un écran géant, coup d'envoi à 18h. Et comme je l'ai dit la dernière fois, cette année, c'est la bonne.
Il y aura de la pression ?
Il y aura effectivement de la pression. Dans un tout autre registre, la ville de Clermont favorise les circuits courts. Un nouveau marché de producteurs s'installe.
C'est la fin de journée, vous l'avez vu, on a tous eu du mal. Et alors après, Clément le divine.
Voilà, donc il y aura un marché place de Jeune.
Vas-y, continue. Donc il y aura un marché de producteurs locaux et c'est une première sur Clermont-Ferrand, il me semble. Il y a un événement Facebook d'ailleurs qui l'annonce, que j'ai vu passer. Et c'est un essai pour que ça perdure après dans
Exactement.
Le temps. C'est une
donc
fois par mois, c'est ça ?
Un dimanche par mois, donc là ce sera le 14 mai de 7h à 13h. Et en espérant que les supporters de la veille n'auront pas fait trop de dégâts. Alors donc, pour continuer sur de la musique, le festival Hippocampus dépose son chapiteau sur le campus des Céseaux du 18 au 20 mai. Retrouvez notamment le Before Hippocampe le jeudi à partir de 17h. Retrouvez tout le programme sur le site de l'université où vous retrouverez l'événement. Le 21 mai, on aura la Clermontoise. Donc c'est la 10e édition de cette course qui est 100% féminine et 100% caritative au profit de la lutte contre le cancer du sein. Donc c'est un parcours de 5 km afin de permettre à toutes les femmes de participer à leur rythme. Départ à 10h.
Et puis surtout, pour la 10e année, ce n'est plus exclusivement féminin puisque la veille au soir, il y a un parcours pour les hommes.
Voilà, exactement.
Quand même.
Donc pour finir cet agenda, l'ADNA, Association des naturalistes d'Auvergne, organise une sortie découverte de la flore auvergnate. Venez découvrir la flore printanière au cours d'une randonnée très simple. Cette sortie est gratuite et ouverte à tous. Elle sera animée par notre cher chroniqueur Antoine Vernet. Rendez-vous donc le samedi 27 mai au CESO à 13h30 pour du covoiturage ou directement à 14h au niveau du camping au bord du lac d'Eda. Inscription via l'événement Facebook. Et comme chaque mois, vous retrouvez toutes ces informations sur notre page Facebook. Il ne me reste plus qu'à rendre l'antenne, enfin, et vous retrouver au premier étage du Delirium pour l'habituel d'Octovert où il y aura de la pression.
C'était dur, mais merci Ludivine. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a plein de beaux événements ce mois-ci, des événements sportifs, des événements de médiation scientifique, que la fac de droit est la place to be et que pour découvrir la flore printanière, il faut avoir rendez-vous avec Antoine. En tout cas, tous ces événements sont bien, ils permettent de souder les gens et d'ouvrir les esprits, de choses dont nous avons toujours besoin. De rire aussi, je pense que la pression de la thèse se fait sentir arrivée au mois de mai, puisque on est en train de perdre progressivement tout le monde en studio. Bref, on parle d'ouverture d'esprit, l'accès à la science y contribue, alors n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour écouter nos podcasts sur le site de la radio www.campus-clermont.net, sur son appli mobile ou sur le site de l'association www.doctoverne.com. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à nos vidéos sur YouTube ou à suivre notre actualité sur Facebook. Puis surtout, n'hésitez pas à nous retrouver à l'antenne tous les premiers, troisième et cinquième mercredis du mois, à nous retrouver tous les premiers mercredis du mois au Doctovert, donc à Delirium, autour d'une bonne pression, et à nous rejoindre également sur le festival Pint of Science, puisque Ludivine parlait de bière, mais dans tous les cas, elle y sera. Quand il y a un bar, elle n'est pas loin. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne soirée.
Vous venez d'écouter Quad Doc, l'émission de Doctovergne.